voudrais vous raconter l'histoire de la révolte, ou plutôt l'histoire d'un homme. Un homme qui n'a pas eu de chance, né du mauvais côté de la rivière, du mauvais côté de la vie. Pas d'argent, pas de dons, pas même de belle gueule. Trois générations de chômeurs et puis le voilà, l'héritier. Il hérite de la misère, de la résignation, il hérite du ressentiment. Pas même de la colère, pourtant son père l'a cogné toute son enfance, cogné pour oublier, cogné parce qu'il fallait un coupable, quelqu'un sur qui passer ses nerfs, sa rage non pas de vivre, mais de juste survivre. L'enfant battu est devenu un homme discret. Même accoudé au comptoir, l'invisible ne fait pas de vagues, pas de scandale. Il n'agresse pas, ne colère pas, n'empoigne pas. C'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise ? Il n'y a rien à dire, rien à faire. À part prendre 5 kilos tous les 10 ans et accepter. Remâcher son destin comme on chique du tabac, avec une patience de condamné. Et puis un jour, tout change. Pourquoi ? Pourquoi un jour, le pourquoi s'élève ? Pourquoi un jour, c'est trop ? Et pourquoi ce jour-là ? Un jour, il prend un flingue, il va faire une connerie, parce que ça suffit. On va voir qui il est, on va connaître son visage. Il y aura son nom sur toutes les lèvres, ou au moins sur celle de son père. Son nom, et surtout son prénom. Il va voir la gueule de son père avec un flingue dans la bouche, parce que ce qu'il a enduré, lui le fils, aucun homme ne devrait l'endurer. Il ne se révolte pas parce que sa situation lui est insupportable à lui, mais parce qu'elle est insupportable pour tout homme, parce qu'aucun homme ne devrait avoir à la supporter. Il se révolte au nom de tous les siens, au nom de toutes les victimes. S'il n'y avait eu que lui, il s'en serait accommodé. Il aurait fait avec, comme il l'a toujours fait. Mais il n'y a pas que lui, il y a les autres, tous les autres. Il ne sait pas ce que Camus écrit dans L'Homme révolté. C'est pour toutes les existences en même temps que l'esclave se dresse. Il n'a pas lu Camus, mais il est d'accord avec lui. Je me révolte, donc nous sommes. Son père a peur maintenant, mais ce n'est pas avec un flingue qui lui règle son compte, c'est avec des mots qui sortent comme jamais, qui sifflent mieux que des balles. Jamais il n'a si bien improvisé, jamais il ne s'est senti aussi libéré, ainsi lavé comme Meursault à la fin de L'Étranger. Meursault lavé par sa grande colère quand il empoigne le curé et le secoue de toutes ses forces. Jamais il ne s'est senti autant accompagné. Je me révolte, donc nous sommes. Pour en parler ce matin, de la révolte et de ses fondements, de ses excès et de ses beautés, j'ai la grande joie de recevoir dans un salon parisien Fanny Ardant, la lumineuse Fanny Ardant, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour aborder avec nous cette belle question. A-t-on raison de se révolter ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Fanny Ardant, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
C'est très gentil de nous avoir rejoints, ça me fait très plaisir, je suis très, très honoré, très flatté. Et je vais vous poser la question de but en blanc. Alors je ne vais pas commencer par raconter tout ce que vous avez fait, on connaît tout ça, tous ces réalisateurs, on les connaît, tous vos films. C'est passionnant, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est un sujet de philosophie, lié je pense aussi à votre parcours. Et cette question que Sartre a posée en son temps, que Camus avait posée avant, que je vous pose maintenant, ce matin, donc sous le soleil de Platon. A-t-on raison de se révolter, Fanny Ardant ?
Oui, ça fait comme partie des choses essentielles et comme des droits irrévocables. Je vous avais dit cette phrase, je me révolte, donc nous sommes. Je pense que c'est fondateur et que la révolte, elle ne doit pas arriver au bout d'une vie gâchée ou d'une vie détruite. Je pense qu'il faut apprendre très vite que toute autorité, que toute loi, que toute obligation peut être mise en discussion. Et que si très jeune, vous vous habituez à pas accepter tout en disant « c'est la loi qui l'a dit, c'est le prof qui l'a dit, c'est le président de la République qui l'a dit », il y a une forme de révolte. Alors je pense que la révolte perpétuelle, comme l'orgie perpétuelle, il y a quelque chose de où vous ne serez jamais enfermé. Bien sûr que c'est fatigant. Et pour vous, et pour les autres. Mais la révolte permet d'être clairvoyant, de voir plus loin que son propre cas. Parce que je pense toujours que de se révolter que pour soi...
Oui, c'est la phrase de Camus. Au fond, on se révolte pour les autres.
Oui. Enfin, et que peut-être, moi, je peux avoir une grande admiration pour l'acceptation de son destin. Il y a quelque chose comme de l'ordre du mysticisme.
Mais alors, justement... c'est quelque chose dont vous parlez souvent, votre lecture des Grecs, notamment de Homère. Justement, chez les Grecs et pour Homère, au fond, il n'y a pas de révolte possible contre le destin. Il faut plutôt accepter, autrement, de toute façon, on sera broyé par ce qui est absolument plus grand que soi. Alors comment on peut tenir les deux maillons de la chaîne ? D'un côté la révolte, de l'autre côté la souveraine acceptation.
Ben, ça, je pense que c'est comme une illumination, l'acceptation. Mais pas parce qu'on a peur d'être broyé, parce qu'elle est offerte.
Offerte, c'est-à-dire ?
Vous savez, quand vous offrez votre vie comme en disant je ne suis rien.
Ah oui.
Un peu comme les hommes de Port-Royal. De ne pas être dans l'apparence, dans l'amour propre, dans lutter pour soi. Alors que moi, je pense que j'ai toujours eu un sentiment tragique de la vie. Donc le fait que vous allez être broyé, ça en vaut quand même la peine. Que pendant le temps que vous aurez été vivant, vous n'aurez pas été quelqu'un sur lequel qu'on aura piétiné.
Oui, c'est d'ailleurs, on peut être un héros, finalement, même si on ne se révolte pas contre son destin. Un héros, finalement, de l'acceptation.
Alors voilà. Mais moi, curieusement, j'admire les deux. C'est
oui,
la contradiction.
Bien, ouais.
J'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un, justement, quand vous commenciez à parler du personnage dont vous parliez, qui ne se révolte pas, qui accepte, résigné. Mais je n'aime pas trop la résignation. C'est pour ça que je vous parle de l'offrande. C'est très différent
c'est
de
très
la
beau,
résignation.
L'offrande.
Et de dire, alors, il y aura un côté religieux, mystique.
Quand Et j'offre quoi quand je me révolte pas, que j'accepte de façon assez sublime, et que vous parlez d'offrande, mais au fond, j'offre quoi ?
Vous-même, avec humilité, en disant je ne suis rien. Je n'ai pas besoin d'être quelque chose. Je suis dans cette offrande. C'est-à-dire, vous n'avez envie de réussir rien. Vous n'êtes pas de ce siècle, vous n'êtes pas de ce monde. Vous ne voulez rien prouver aux autres. Vous n'avez pas de désir d'argent, pas de désir de gloire, pas de désir. Vous êtes un être pur.
Oui, alors c'est une définition de la sagesse presque. C'est-à-dire, on retrouve à la fois
Diogène et son tonneau.
Et puis aussi chez les bouddhistes, hein, c'est la même idée.
Oui.
Au fond, il y a quelque chose qui est là. Qui s'appelle le monde, ou le cosmos, ou la vie, ou le destin, et moi je ne suis rien, mais il y a quelque chose de sublime dans cette force d'acceptation. Et effectivement, vous l'avez bien dit, ce n'est pas de la résignation. Cette distinction, j'aimerais qu'on s'arrête un peu dessus, elle est très belle, la distinction entre se résigner et accepter. Dans le sens commun, il y a une confusion. Pour la plupart des gens, pour la plupart des modernes, à qui on a dit « quand tu veux, tu peux, tu dois te battre pour inventer ta vie », pour eux c'est synonyme. Se résigner et accepter, alors que pour les sages, c'est très important cette distinction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Bon, moi je ne fais absolument pas partie de cela, donc je ne peux pas vous éclaircir tout, mais je peux le deviner ou le sentir. Et quand vous avez dit accepter, offrir pour un plan supérieur, ou de n'être rien, comme pas plus que l'herbe dans le vent ou la pierre dans la rivière, il y a quelque chose de souverainement... généreux.
Ça donne envie, en tout cas.
Oui, exactement.
Vous avez joué Cassandre, d'ailleurs, au théâtre,
oui.
Pendant longtemps, c'était dans plein de pays. Et justement, Cassandre, c'est un peu une figure comme ça, quelque part, à un moment.
Elle voit ce que les autres ne voient pas, et elle s'y... Puisque c'est une héroïne tragique, elle accepte.
Oui, c'est ça.
Mais elle a vu avant les autres. Alors qu'il y avait aussi l'autre héroïne des Grecs, c'était Antigone, qui dit non.
Oui, qui dit c'est le contraire.
Oui.
Qui refuse, quoi.
Oui. Donc, je pense qu'il doit y avoir, comme dans l'ombre et la lumière, le chaud, le froid.
Vous êtes plutôt... je vous ai interrompu, mais c'est parce que, après, je vais oublier l'idée. Vous êtes plutôt une figure d'Antigone, dans vos prises de position politiques. On se souvient du scandale en Italie, quand vous avez défendu la figure des Brigades Rouges. On se souvient de votre allergie à la bien-pensance, quand vous avez défendu votre ami Roman Polanski. Donc tout ça, c'est évidemment Antigone. Et en même temps, on sent une fascination pour une figure, non pas du refus, mais de l'acceptation. Comment votre cœur peut-il ainsi balancer ?
C'est fatigant. Mais en même temps, il y a quelque chose... Souvent, vous pouvez parler. Je pense que le début de la révolte, ce qui naît avant la révolte, c'est l'indignation. Je pense que l'indignation est salutaire en même temps. Vous ne pouvez pas rester indifférente, même à des choses qui ne touchent pas directement votre propre vie. Et que ne plus être indigné me semblerait comme si quelque chose mourait, comme si vous pourriez rester comme un sage.
On pourrait vous objecter presque le contraire. C'est que certains s'indignent et s'arrêtent là. En fait, il y a une indignation qui est une profession de foi comme ça, publique, et puis au fond, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de vraie révolte. Moi, j'aurais presque envie de préférer ceux qui ne s'indignent pas, qui sont dans un consentement lucide et joyeux au destin et au tragique, mais qui, un jour, se lèvent.
Oui.
C'est plus excitant.
Ah ben oui. Je comprends ce que vous dites, qu'on peut être une indignation perpétuelle, mais que la révolte, je ne sais pas si la révolte a besoin d'être de fédérer. Parce que pour moi, tous les mouvements de révolte, souvent, sont restés dans la légitimité. Donc pour moi, elles veulent rien dire. Parce que quand je pense à mes grands-parents ou à des grands-parents, toutes les lois sur lesquelles on est content de vivre se sont arrachées par la violence. Elles ne se sont pas arrachées en disant « Monsieur le préfet, je voudrais bien défiler du boulevard Saint-Germain jusqu'à la Bastille. » Bon, alors vous avez le droit, mais vous serez entouré de tant de cars de police. Donc il y a quelque chose dans notre société où la révolte doit être légitime, alors que par définition, la révolte est illégitime.
Elle est, c'est ça, c'est ce que vous dites. Elle est, en général, quelque chose qui part du cœur d'une singularité et qui aspire à l'universel, c'est-à-dire qu'on saute la case du collectif, justement, du groupe, donc du légal et du légitime. On sent dans toute votre histoire quelque chose d'anticonformiste, une allergie au groupe, au troupeau. Et la peur que vous avez évoquée, c'est aussi la peur de ne plus appartenir, la peur de ne plus être dans le groupe, de sortir du rang, de sortir du troupeau. Mais est-ce que vous ne croyez pas pour autant que parfois, par anticonformisme, on peut errer, on peut se tromper, en fait ?
Oui, bien sûr.
Ça vous est arrivé ?
Bien sûr. Et que souvent, j'ai dit qu'au fond, j'étais une sale égoïste. Parce que quand j'ai méprisé les groupes politiques, tu vois, c'est comme si... La parole était aisée, mais que c'est que dans l'action, dans le construire. Alors que moi, j'avais été très jeune, impressionnée par un livre de Marguerite Duras qui s'appelait « Détruire », dit-elle.
Oui.
Qu'en fait, tout commençait en détruisant. Alors on me disait, c'est pas très constructif. Oui, mais que c'est, tu vois, c'est une grande incohérence. Et que c'est pour ça que je ne pourrais jamais avoir un vrai discours politique. Parce que je suis consciente, comme vous venez de le dire, que d'impuissance, de végétation, et que je n'aurais pas changé le monde.
Mais détruire, Camus montre bien dans L'homme révolté, donc toujours ce même texte, qu'en fait, la révolte dit non à quelque chose qu'elle veut détruire, un ordre injuste, un scandale, mais elle dit toujours en même temps oui. Mais oui à quoi ?
Elle dit oui à des lendemains qui chantent, et tout le monde sait. Que les utopies sont peut-être les choses les plus dangereuses. On peut penser à des gens comme Savonarole ou comme Staline, oui. À tous ces lendemains qui chantent. Mais que toujours, moi j'aime beaucoup les utopies finalement. Et que je préfère un monde qui se trompe dans une utopie, mais comme une énorme aventure, que d'avoir été que des êtres matériels.
Réalistes finalement.
Oui. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a de la place pour tout le monde ?
Si, si, sûrement.
Donc, justement, il en faut les réalistes qui disent, ou le bon sens commun.
Aujourd'hui, il y a plus de réalistes que d'idéalistes,
en tout cas. Ouais. Je disais toujours que la politique était morte le jour où Che Guevara était mort. Enfin, c'est la dernière image emblématique. Moi.
Ah, pardon. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Camus dans le rapport à Maria Cazares au moment où il écrivait L'homme révolté ? C'est hyper intéressant. En fait, Camus était très dark, très sombre. Et L'homme révolté était une figure du refus, de la révolte, mais négative, une révolte politique, sociale, métaphysique. Et puis, grâce à l'amour avec Maria Cazares, il a découvert une part de lui plus solaire, plus affirmative, et il a ajouté un oui au non. Et au nom de la révolte, le oui à la vie, le oui à l'avenir que vous venez d'évoquer s'est ajouté. C'est quand même plus intéressant, cette ambivalence, finalement, oui. Ce mélange, en fait.
Oui, mais que quand vous dites le... En fait, vous avez dit exactement ça. La seule chose qui s'oppose à la révolte ou à la résignation, c'est l'amour. Je pense que dès que on est plein d'amour, on oublie cette colère, on oublie ça.
Et
peut vivre une vie de tous les jours qui semble prosaïque, pas forcément formidable, mais comme l'amour peint tout en or, je pense que la révolte prend la place que l'amour n'a pas. À laisser vide.
Mais en même temps, du coup, la conséquence, c'est que parfois, parce que certains êtres sont individuellement aimés, ils ont oublié de se révolter, ils ont oublié la révolte politique, ils ont oublié la révolte métaphysique, au fond, parce que l'amour leur suffit.
Oui, mais ça, alors on va les mettre à côté des mystiques. Moi, je trouve que quelqu'un qui réussit une vie amoureuse, c'est comme quelqu'un qui aurait fait un chef-d'œuvre, comme s'il avait bâti Notre-Dame ou n'importe quel tableau. Je pense que être heureux en amour, allez. Ça y est, t'as gagné tes titres de noblesse.
Plus besoin de politique, quoi.
Non, oui. Je pense qu'on commence à s'intéresser à la politique, justement parce qu'on est sans amour.
Ouais, ça me rappelle une belle phrase, ça, c'est le pouvoir et la consolation des ratés. Je me demande si c'est pas une phrase de Malaparte. En fait, on s'accroche au pouvoir, aux conquêtes terrestres, mondaines, sociales, politiques, parce qu'au fond, on a raté l'essentiel, et l'essentiel, c'est d'être pleinement vivant, intensément existant, aimé, amoureux. Cela dit, ça peut être aussi peut-être l'amour du monde et pas simplement l'amour de quelqu'un. Je vous propose une petite pause musicale pour faire résonner vos belles divagations. C'était très beau, Fanny Ardant. À quoi sert de vivre libre? Nous retrouvons Fanny Ardant sous les soleils de Platon après cette petite pause musicale. Bah, je ne peux pas résister à vous poser cette question, enfin double question. D'abord, ça vous fait quoi de vous écouter chanter? Et surtout, à quoi sert en effet de vivre libre?
À quoi sert vivre libre? Oui, mais il faut dire la chute. Si on est libre mais sans amour, ça ne sert à rien.
Mais l'amour, on ne peut pas être libre. Enfin, dans l'amour, il y a de l'attachement, il y a du lien.
Oui. Oui, c'est toujours. Moi, je pense toujours que la liberté, c'est le bien le plus précieux et celui qu'on perd le plus facilement. Et quand on se retourne, il est trop tard de savoir qu'on l'a perdu. Mais que ça ne sert à rien. On n'a pas envie de liberté quand on est amoureux.
Vous avez évoqué, justement, avant d'écouter la chanson, le chef-d'œuvre d'une histoire d'amour réussie. Vous l'avez vécu ?
Ah non, mais ça, je parlerai ça devant mon avocat.
Mais parce que dans l'amour, il y a quand même toujours quelque chose qui attache, qui de la possessivité, du manque, je pense nécessairement de la jalousie. Mais est-ce que c'est pas quelque chose comme une prison qui est finalement plus belle que la liberté ?
Je pense qu'il faut que l'amour soit absolu. L'amour, l'amour n'a pas envie de choses médiocres. Il faut bien savoir, quand on parle d'amour, on parle de la passion, de quelque chose qui fait que tout d'un coup, vous marchez à 30 cm du sol. Donc là, vous n'y pensez même pas à la liberté. Vous ne pensez même pas que vous pouvez être malheureux ou qu'il vous manque de l'air ou de l'oxygène. Malgré tout, l'être humain doit être quelqu'un de libre, comme les animaux.
Vous voulez dire libre un peu au sens premier, libre d'aller, venir, libre de ses mouvements.
Oui, alors je sais que là, on vous oppose toujours la société, je ne suis quand même pas complètement abruti de penser qu'il faut quand même une forme de société, mais qu'il ne faut pas que tout d'un coup, tout devienne... Moi, je me rappelle, on disait en France, tout est interdit et ce qui est permis est obligatoire. Voilà. Ça, c'est plus possible.
Oui,
c'est,
on est dans une société très normée, très normative, depuis l'école jusqu'aux entreprises et leur règne des process. Et c'est vrai qu'il y a dans toutes vos positions, vos films, ceux que vous avez réalisés, ceux dans lesquels vous avez joué, on sent que vous avez joué uniquement des rôles que vous aimiez, une passion de la singularité, je dirais. Au fond, quelque chose d'assez nietzschéen, hein, deviens ce que tu es, peu importe que ce soit contre la bien-pensance, contre la norme. Mais cette singularité, vous la définiriez comment ? Finalement, c'est quoi être singulier ?
Mais je pense que c'est les autres qui vous mettent ce nom singulier. Soi-même, on s'avance comme dans une forêt obscure, et que c'est vrai que souvent, moi je disais toujours, mon seul luxe, ça a été ma liberté. C'est-à-dire que je n'ai fait que les choses que j'aimais. Avec succès ou pas succès, argent ou pas argent, c'était pas ça qui... C'était l'idée que je ne pourrais pas faire quelque chose que je n'aimais pas. Et que je ne ferais jamais quelque chose pour autre chose que le plaisir de l'adhésion absolue à ce que je fais. Parce que je me dis qu'il n'y a rien qui remplace le moment présent.
Bien sûr.
Quand vous regardez les films ou les pièces de théâtre, si vous n'avez pas été heureux en les faisant, à quoi ça a servi tout ça ?
Vous avez d'ailleurs été assez marqué par la lecture de Simone Veil. Alors, Simone Veil, la philosophe, pas Simone Veil, la femme politique. Notamment La pesanteur et la grâce, dans laquelle, justement, elle parle beaucoup de présence. C'est assez important aujourd'hui de revenir sur cette notion. Aujourd'hui, on est souvent absent, en représentation. On a du mal à goûter comme ça cette espèce de magie, de miracle, en fait, de la présence. Et vous, c'est ce que vous cherchez dans un rôle, par exemple ?
Oui, dans un rôle ou même dans la vie. Ou de d'être dans le moment absolument présent, parce que moi j'avais cette notion très jeune de l'éphémère. Ça ne reviendra plus jamais. Ça ne se repassera plus jamais. Vous savez, cette fameuse phrase, on ne se baigne jamais deux fois.
Bien sûr.
Et ça, pour moi, je trouvais ça tragique. Donc si vous n'êtes pas complètement dans le moment où vous existez avec ce que vous êtes en train de faire, de déjeuner, de boire du vin, de fumer une cigarette, de chanter, de danser, de pleurer, ben, que vous êtes toujours ailleurs parce que... Et ceci, peut-être, ça serait bien si je faisais ça, parce que peut-être, dans des stratégies, pour moi, c'est l'anti-stratégie, le moment présent. Rien ne remplacera un moment présent.
Et d'ailleurs, il a quelque part une valeur d'éternité, quand il est pleinement vécu.
Oui.
Donc, au fond, peut-être qu'il ne revient pas deux fois, mais il a une valeur éternelle.
Absolument. Oui, parce que même, ça peut être quand vous traversez un lac ou un étang, la lumière portée sur cet étang à tel moment de la journée... Ça reviendra plus jamais. Et puis, par exemple, vous vous rappelez, quand vous êtes un enfant, votre famille, vos frères et sœurs, les vacances, pourquoi elles ont quelque chose de magique ? Parce que c'est fini.
C'est fini, mais rien ne pourra faire que cela n'ait pas été.
Écoute.
Est-ce que vous connaissez un livre de François Julien qui s'appelle « Cette étrange idée du beau » ? Parce qu'il raconte très bien ça, comment dans une expérience esthétique, au fond, tout est réglé, dans une qualité de présence, quelque chose d'éternel s'ouvre. Et au fond, on est libéré de tout, de la peur, de l'angoisse que ça ne revienne pas, en fait, parce que c'est là pour toujours, quoi. Pour toujours, cela aura été.
Absolument. Rien pourra l'enlever.
C'est François Julien, je vous l'offrirai, cette étrange idée du beau. D'ailleurs, ça m'amène à une autre question. Quelle est votre dernière émotion esthétique forte ?
J'ai vu un film que j'ai beaucoup aimé de Benoît Jacquot, qui s'appelait Susanna Handler, un homme et une femme parlaient d'amour sur une terrasse devant la mer.
Il parle beaucoup ?
Oui, mais c'est les mots de Duras. Donc dans Duras, déjà dans la beauté de son style ou dans la folie de ses mots, où ça va même trop vite, on voudrait arrêter les choses. Et voilà, j'étais contente. C'était au moment où on a rouvert les cinémas. Et je me disais, ah, c'est magnifique qu'il y ait de la place. Parce que moi, je suis très pour, il y a de la place pour tout le monde. Pour les intelligents, pour les moins intelligents,
oui, bien sûr.
Pour les violents.
J'ai entendu vos propos d'ailleurs sur Joker, le film hollywoodien, que vous avez beaucoup aimé. Vous avez vu quelque chose de métaphysique dans cette posture, donc vous n'êtes pas cantonné au cinéma d'auteur. Néanmoins, est-ce que vous pensez, comme Baudelaire, que le beau est toujours bizarre ?
Non, mais je suis comme ce que dit Duras, que le beau doit être scandaleux.
Scandaleux ? Par rapport à quoi ?
Ben voilà, je vous livre la phrase telle qu'elle l'a dit, ouais. Moi je la comprends. Il y a quelque chose qui... Parce que dans le scandale, vous ne pouvez pas vous endormir. Vous êtes complètement... Tous vos ordinateurs se sont réveillés. Donc c'est quelque chose qui ne suit ni un ordre moral, ni une école esthétique. Il y a quelque chose qui a ouvert le rideau.
Ouais. Mais c'est ça, à peu près, hein, que voulait dire Baudelaire, je pense. En disant le beau est toujours bizarre, il voulait dire qu'il faut qu'il y ait une décharge un peu électrique, oui, troublante, qui fait qu'on est en éveil soudain. Soudain, on est réveillé. On est un peu violenté aussi.
Donc
un peu brutalisé.
Oui, mais dans le scandale, il y a quelque chose qui fait que...
Il y a un sens moral dans le scandale, en tout cas.
Ah bon ?
Ah oui, je pense qu'un scandale, c'est quelque chose qui choque moralement.
Ah, bizarrement.
Non ?
Vous Moi, je pense que vous étiez comme ça, tranquillement, assis sur votre banc, assez doux, apathique. Et brusquement, à cause de ce scandale, le sang circule plus vite dans vos veines, ou vous vous posez mille questions, ou vous êtes différent tout d'un coup. Mmh. Et scandaleux dans le sens qui il a retourné l'air.
Ouais, j'ai l'impression, si on entend ce que vous dites maintenant par rapport à ce que vous disiez au début de l'entretien, qu'en fait, est scandaleuse l'irruption d'une singularité qui se réveille dans un monde de la norme et du groupe. Le scandale, c'est quand j'existe enfin comme singularité. La société n'est pas prête à ça, au fond.
Non, et en même temps, sans singularité, il n'y aurait pas de société. Puisque la société s'est constituée pour se défendre, pour tout ce qui pourrait lui faire perdre pied, ou qu'il n'aurait pas quelque chose avec un rythme continu, les affaires qui marchent. Toute société s'organise pour qu'il n'y ait pas de singularité. Et en même temps, c'est la singularité qui l'éclaire. Je pense que vous avez parlé de Baudelaire, maudit à son époque.
Bien sûr.
Donc, des
condamné pour outrage aux bonnes mœurs.
Oui, ou Rimbaud. Vous voyez, moi, je pense toujours que c'est des clairvoyants. C'est qu'ils n'étaient pas de leur siècle, mais qu'ils étaient au-delà du siècle.
Revenons à Simone Veil et à la pesanteur et la grâce, parce que j'ai l'impression que c'est cette lecture peut-être assez jeune, je crois, qui a fait de vous quelqu'un qui aime le mystique et aussi la présence. Simone Veil tirait quatre grandes leçons de l'Iliade, dont je vous ai déjà entendu parler. Je voudrais qu'on s'attarde sur les quatre leçons et à chaque fois avoir un de vos commentaires. Première leçon, ne jamais se croire à l'abri du sort.
Oui, comme si on arrive, la fleur à la bouche, tellement sûr de soi, et tout peut arriver.
Donc méfiance quand même, vigilance.
Oui, ou être comme un funambule, mais qui sait que la chute est possible.
Deuxième leçon, ne jamais admirer la force.
Ah voilà, pour moi c'est une des plus fortes. Parce que si tu
sais,
mais moi je pense, bon, ça vient même des fables de La Fontaine. Tu vois, le côté, si on me dit oui, mais il est riche, ou il est puissant, mais pourquoi tu admires un type puissant? Donc, et moi je crois que ça vient de très loin de cette histoire des Troyens et des Grecs. Parce que ça vous dissout l'admiration de la puissance. Vous rentrez dans déjà une acceptation, dans un acquiescement. La puissance, vous déposez les armes, vous vous battez même plus.
Pourtant, l'admiration, quand même, pourrait aussi nous gonfler de force, pas toujours nous aveugler. Parce qu'on pourrait être fasciné par la force, on pourrait être servile, on pourrait être tout petit, mais admirer, il y a peut-être quelque chose de noble.
Non. Parce que dans l'admiration, vous dites « faites de moi ce que vous voudrez ».
Troisième leçon, ne pas haïr ses ennemis.
Ouais. Alors, j'ai des moments où, en effet, j'ai voulu les voir morts. Et puis, finalement, je me suis débarrassée de ça parce que ça appesantissait mon âme. Je me disais, allez, c'est mieux, oublie.
Oui, donc vous avez connu quand même la morsure de la rancune et le désir de se venger.
Oui, et tout d'un coup, en fait, c'est comme si vous chargiez de pierres et ça va vous faire couler. Donc, c'est même pas par mysticisme, là.
Non, là, c'est même par intérêt.
Oui.
Au fond, se pardonner, c'est
Oui. Et que quand même, souvent, moi, j'ai dit que quand vous pardonniez, que le pardon est plus fort que la justice. Que dans la justice, il y a toujours une forme de vengeance déguisée, même si c'est relayé par une société.
C'est censé pas être le cas, normalement. Mais vous avez raison. Au fond, il y a de ça. Et ses ennemis, vous en avez eu beaucoup ?
Non, mais costaud.
Ah oui ? Quatrième leçon, ne pas mépriser le malheureux.
Oui.
Ça, c'est une leçon de l'Iliade, une leçon d'Homère,
oui,
après Simone Veil.
Oui.
C'est vrai, parce que le malheureux, parfois, en fait, c'est quelqu'un de très puissant, déguisé en malheureux avec les
miracles. Et tous les faits et gestes, mettons, quand Achille, il a traîné le corps d'Hector dans la poussière et qu'il a déshonoré le corps mort d'Hector, et quand il voit arriver Priam dans sa tante, ce noble, ce roi, ce prince, il est ému parce qu'il est faible, Priam, mais qu'il est noble. Et que dans la faiblesse assumée, l'immonde, c'est celui qui piétine, celui qui est faible.
Et là, Achille comprend qu'il est allé trop loin, qu'il s'est fait déborder par quelque chose d'inhumain, au fond.
Oui.
Mais le fait qu'il en ait conscience le permet de réintégrer l'humanité.
Absolument. Il y a toujours, dans l'Iliade, il y a toujours l'ombre et le soleil. Il n'y a pas de gentil et de méchant. Les Troyens, et comme les Grecs ont quand même outrepassé leurs droits, ils mettront très longtemps avant de revenir, et chacun reviendra dans son pays. Agamemnon est tué, l'autre, abruti d'Ulysse, il va rester 10 ans. Donc il y a... C'est ça ce que j'aime beaucoup dans l'Iliade, c'est qu'il n'y a pas de victorieux et il n'y a pas de perdant. Et quand vous me parliez de Cassandre, ce que j'avais beaucoup aimé dans ce texte de Christa Wolf, c'est que c'était la guerre vue du côté des perdants. Parce qu'on raconte toujours la guerre vue du côté des victorieux, mais que c'était intéressant de voir du côté des perdants.
C'est vrai que Cassandre, on lui en veut d'être trop clairvoyante, au fond.
Ouais. Mais ça continue. Quand les gens disent des choses trop, en disant, c'est comme si on dit, oh, arrête avec ton truc. Comme si on avait toujours envie d'être un peu drogué.
Il vaut mieux ne pas voir, il vaut mieux ne pas savoir. Quoi.
Oui, mais c'est pas vrai. Parce que peut-être c'est plus difficile d'être lucide. C'est pour ça aussi que je vous disais, les grands poètes, j'ai beaucoup d'admiration, parce qu'en fait, pour moi, c'est des extra-lucides qui savent tout, qui voient tout, mais qui vous donnent quand même une consolation. Parce qu'il ne suffirait pas de dire que la vérité, mais une parole de consolation.
Quelle consolation, par exemple ?
De vivre, de dire, tu vois, de penser que malgré toutes les difficultés, allez, vas-y. Parce que moi, par exemple, je suis très pessimiste de nature. Je vois le sens tragique de la vie, mais je suis positive, curieusement. Je dis, bon, ben voilà, jusqu'à ce qu'on ferme le rideau, allons-y.
Ce tragique n'est pas incompatible avec une vraie joie de vivre.
Hey boy, you can trust me when I say it's time to go. See, now there is so much joy, confidence, love and fire. On this road we already know, there's nothing here to leave behind. Just that fear that's in our minds. And while our hearts beat so, be held up. Don't you know that we are true chameleons? Every time I see us, I see shapes and colors glowing in our hands. So beautiful, we want so much, and we have so much. We will watch the horizons getting near. Thank you.
maintenant, nous retournons auprès de Fanny Ardant dans un salon parisien.
Sous le soleil de Platon.
Il va arriver un moment, il y a des grands, si on se mettra flambé, il ne faudra pas demander d'où ça vient. Bon, ben révolte.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous retrouvons Fanny Ardant sur le soleil de Platon après cette pause musicale. Et j'aimerais qu'on revienne à ce que vous évoquiez juste avant. L'idée d'un sens tragique qui n'est pas incompatible avec la joie de vivre. Alors évidemment, ça me fait penser à Nietzsche, la joie tragique, à Clément Rosset aussi, un philosophe absolument génial, qui a écrit un petit livre exactement là-dessus, qui s'appelle La force majeure, où il raconte que, au fond, quand on a compris le tragique de la vie, eh bien finalement, ça nourrit une joie, parce qu'on est capable de joie malgré tout, de joie bien que. Et c'est ça la vraie joie, une joie contrariée. Vous êtes d'accord ?
Oui. Mais en fait, c'est une joie très pragmatique, j'allais dire. Comme si dans ce qui vous est proposé de la vie, il y avait des choses très simples. Je pense souvent, moi, à des choses comme rentrer dans un bain, ou la fraîcheur des draps, ou manger du pain, ou rire avec quelqu'un, ou fumer une cigarette au soleil. Vous voyez, des choses... En fait, pas avoir de projet, pas avoir de toujours de stratégie ou de... En fait, la joie, elle est dès que vous ne vous projetez pas dans l'avenir.
On retrouve la présence.
Oui.
Le présent.
Moi, souvent, on me disait toujours, je n'ai pas peur de la mort, moi. Je pense toujours que c'est une alliée, la mort. Parce que c'est celle qui donne justement le temps fugace de ce que vous allez vivre. Et donc, si vous n'aviez pas de mort, vous seriez moins excité.
On dirait Lacan, vous connaissez cette sortie de Jacques Lacan qui est devenu un mème sur Internet où il dit « La mort est du domaine de la foi, heureusement que vous y croyez, autrement vous ne pourriez pas supporter de vivre.
Oui. »
Parce qu'il n'y aurait pas de limite, il n'y aurait pas quelque chose qui rend intense
oui,
le présent.
Oui, qui donne le côté, toujours ce côté éphémère en disant « Allez, c'est maintenant ou jamais. »
Vous avez parlé de joie pragmatique. On pourrait dire réel, tout simplement. Et tous les exemples que vous avez pris, prendre un bain, les draps frais, fumer une cigarette, sont des choses extrêmement réelles. Et au fond, c'est aussi ce que dit Clément Rosset, la joie a toujours mal à partir avec le réel. Mais du coup, la conséquence, c'est que finalement, pour trouver cette joie, il faut aussi un peu arrêter de penser, vous avez dit arrêter de se projeter, arrêter de se souvenir aussi. Vous iriez jusque-là ?
Alors moi, j'ai toujours rêvé un jour, quand je suis très malheureuse, qu'il y a un chirurgien qui m'enlève dans le cerveau les souvenirs. Et on me dit, mais t'es folle, parce que c'est que les souvenirs qui font ce que l'on est. Donc, moi, je suis les souvenirs, qu'ils soient les bons ou les mauvais, c'est comme une forêt. C'est que même les souvenirs malheureux, allez, c'était vous. Et justement, comme il y a toujours cette mort qui se profile, c'était vous.
De toute façon, quand vous dites que vous êtes, au fond, l'enfant de tous vos souvenirs, ça, c'est ce que vous êtes. Mais ça n'empêche pas que la joie soit un moment de présence où, quelque part, vous n'êtes plus celle que vous êtes. C'est peut-être ça, la vraie joie, de cesser d'être soi. On retrouverait ce que vous avez dit au début, hein, se dessaisir
oui,
de soi,
oui,
disparaître
oui,
dans
oui.
le monde, dans le cosmos, n'être plus que les vagues dont parlent les bouddhistes, ou alors le cosmos dont parlaient les tragiques grecs.
Hein. Oui, mais par exemple, quand vous disiez les souvenirs... Je pense aussi que... Moi, par exemple, je ne suis jamais projetée vers l'avenir. Je suis très le moment présent et le passé. Comme un jardin que vous pouvez venir visiter quand vous voulez. Que vous pouvez ouvrir les portes que vous voulez. Vous savez, comme dans des chambres d'une maison que vous fermez parce qu'il y a des choses terribles. Mais je trouve qu'il faut les garder tous. Les plus malheureux comme les plus heureux. Mais vous avez raison, c'est l'idée de lâcher prise... Et justement, je me rappelle avoir connu quelqu'un qui me disait très jeune en disant entre être et avoir, qu'il fallait toujours être. Et qu'il fallait s'en fiche d'avoir.
Et vous avez réussi à respecter ce beau projet ?
Oui. Oui, parce que finalement, comme je vous le disais, c'était le moment présent. Au moment où je tourne un film, si j'ai accepté le rôle parce que je l'aimais, il n'y avait que ce moment-là qui était important. C'était pas le film fini. Le film avec du succès ou pas, tout ça, c'était comme aller un peu des fleurs qu'on jette, mais que c'est pas important.
Mais c'est vrai que, un peu comme Sartre ne relisait jamais ses propres livres, une fois publiés, ils étaient pour lui poubellisés, un jeu de mots que reprendra Lacan, publiés, poubellisés. Oui. C'est vrai que de la même manière, vous ne regardez jamais les films dans lesquels vous avez joué ?
Oui.
Et pourquoi ?
Parce que c'est ça. que je vous disais, cette joie absolue d'être sur un plateau avec des acteurs, un metteur en scène, toute une équipe, des phrases, des situations, un jeu, des sentiments, des pleurs, des larmes. Et donc, moi, j'ai tout le film dans ma tête, ou dans mon ventre. Et puis, tout d'un coup, un jour, où je serai dans la salle obscure et on défrait mon rêve, non.
Vous avez peur d'être déçu, quand même.
Sûrement.
Pour vous, jouer un rôle, c'est ça ? C'est ne plus être vous ? Ou c'est au contraire plutôt quand même vous retrouver ou retrouver une vraie part de vous ?
Exactement ça. Peut-être une part vraie de moi que j'ignorais.
Mais une part.
On peut vous proposer un rôle et c'est pas du tout vous. Mais que tout d'un coup, moi quand je dis oui, c'est d'une façon obscure. Vous savez, comme les chiens qui rentrent dans la forêt. Vous savez pas pourquoi, comme vous, quand vous achetez un livre dans une librairie, une promesse de bonheur, mais que vous ne pouvez pas définir d'une façon comme ça, intellectuelle. Et puis, après... Et quand vous vous êtes trompé, c'est que tout, vous êtes trompé. Tandis que je me rappelle, par exemple, avoir joué un rôle d'Alain René, où je jouais une femme pasteur, qui était altruiste, sereine, lumineuse, généreuse, tout ce que je suis pas. Mais j'étais très, et en le jouant, il y avait quelque chose de moi qui le devenait.
Bien sûr, c'est ça d'ailleurs. Tout à l'heure, je vous ai demandé votre dernière expérience esthétique forte. Vous avez parlé d'un film de
Benoît Jacquot,
voilà. Et au fond, est-ce que c'est pas ça d'ailleurs la définition de l'émotion esthétique ? C'est le moment où on découvre en soi une part qu'on ne soupçonnait pas, mais grâce à ce film, grâce à ce poème, grâce à cette chanson, on entend cette part en fait,
oui,
qui était là en vérité.
Là aussi, comme je disais, tu vois, le rideau se déchire. Et que vous avez une très grande émotion parce que vous voyez que c'est très miraculeux, que vous ne pouvez pas. C'est pour ça que quand je suis, vous savez, à l'école, on vous dit les chefs-d'œuvre, mais je trouve que c'est une erreur. On ne devrait pas taper les trois coups pour dire attention chef-d'œuvre. Laisse, tu vois, peut-être que quelqu'un, vous préférez Stendhal, moi je préfère Balzac, mais qui a raison? Ou peut-être vous allez me citer un auteur que moi je trouve casse-pied. Donc l'émotion artistique, c'est entre vous et cette œuvre.
Et puis c'est l'affaire aussi d'une liberté. J'ose m'écouter. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Le rouge et le noir, j'aime pas. C'est comme ça.
Pourquoi oui, d'avoir le culot de dire je ne peux pas supporter, ou ceux qui disent Proust m'ennuie, mais moi je trouve ça souverain. Et que le trop, ou même les tableaux, ou même la musique, pouvoir dire je n'aime pas un tel, ou j'ai une passion pour. C'est le vertige qui s'est opéré en vous quand vous avez découvert tel ou tel truc.
Ah, vous m'avez dit au début, avant que le micro ne tourne, quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Je me suis dit qu'il fallait pas que j'oublie d'en reparler. C'était un peu frontal comme première phrase. C'était une des premières phrases. Vous m'avez dit, de toute façon, je n'ai pas d'amis. C'est un peu surprenant d'entendre ça, surtout quand on vous entend parler. En tout cas, visiblement, vous avez beaucoup d'amis chez les écrivains. Enfin, je veux dire, chez les auteurs classiques. On a l'impression que Homer a été votre ami, que Simone Veil a été votre ami. Que ça vous a ouvert à toutes ces dimensions de vous-même que vous évoquiez, jusqu'à camper ce portrait d'une identité multiple, heureusement, contradictoire, ambiguë, tout ça est très bien, mais pas d'amis quand même, c'est bizarre.
Oui, parce que peut-être c'est arrivé depuis l'école, où les élèves d'une école font peur, et que je n'ai jamais pu partager les histoires avec les filles qui disent « il m'a dit ça », alors je lui ai répondu « si », puis il m'a répondu « ça ». Donc je n'ai pas connu tout ce côté qui fonde les amitiés.
Vous voulez dire que vous avez été tellement allergique au groupe, à tous les groupes, que ça entravait des histoires d'amitié ?
Oui, sûrement. Ou que j'avais une nature de traître, je sais pas.
De traître ou de trahi ?
Oui, de côté... je pensais toujours qu'on pouvait trahir son meilleur ami pour une grande histoire d'amour. Et on me disait, t'as pas honte de dire ça ? Parce que je mettais l'amour au-dessus de l'amitié.
Si vous commencez comme ça, l'ami peut s'inquiéter un petit peu. Parce que on a l'impression aussi que dans la qualité de ces relations qu'on peut avoir avec un réalisateur, avec je pense à Gérard Depardieu, par exemple, pour moi c'était un de vos amis, enfin je connais pas.
Ah non, mais c'est plus qu'un ami. Mais alors par exemple, justement, moi j'aime beaucoup l'intensité des rapports, mais que dans les rapports il y a un début, un milieu, une fin, que c'était parce que c'était ce jour-là, parce que c'était, mais qu'il n'y a pas de suite.
Donc c'est plus qu'un ami.
Oui.
C'est-à-dire.
C'est la meilleure partie de moi. Ou c'est comme si je ne pouvais pas imaginer la vie sans lui. Un ami, c'est... Alors, on raconte ses vacances et tout ça, mais ça n'existe pas.
Non, attendez, je comprends mieux votre réponse. Oui, c'est parce que vous avez une idée de l'ami comme une sorte de pote. Ça me fait penser à la phrase un peu de Brassens, à plus de... Le pluriel ne vaut rien à l'homme, sitôt qu'on est plus de quatre, on est déjà une bande de cons. Chant de Brassens. C'est à ça que vous avez en tête. C'est ces bandes de potes, c'est ces rugbyman qui sont dans un truc grégaire. Mais effectivement, il y a des grandes amitiés stellaires. L'amitié entre Éluard et Picasso. Et quelque part, peut-être vous vivez quelque chose de cet ordre avec Gérard Depardieu. C'est quand même une amitié, au fond.
Oui. Oui, enfin, quelque chose... Mais vous savez, quand vous parliez justement de la phrase de Brassens, en même temps, j'ai rêvé qu'on m'appelle, que je sorte sur le balcon et qu'il y ait une voiture avec 4 ou 5 personnes qui disent « on descend se baigner ».
Comme dans un film italien.
Oui.
Ouais.
Ou en Vespa. Bah, niette. Donc, peut-être qu'au fond...
Peut-être que si c'était arrivé...
Oui.
Si, lors de votre adolescence,
oui.
vous aviez eu cette chance, vous ne seriez pas devenue Fanny Ardant.
Non.
Parce qu'en fait, on sait bien, il y a des études qui l'ont montré, que, par exemple, ceux qui étaient très à l'aise à l'adolescence, dans la cour de récré, aujourd'hui, on les appellerait les populaires, ceux qui étaient les petites stars de la cour de l'école à 13-14 ans, en général, sont devenus des êtres anonymes, un peu moyens, un peu médiocres, tandis que ceux qui avaient du mal à trouver leur place, parce que la singularité que nous avons tant évoquée, au fond, les tenait comme ça à l'écart, sont devenus David Bowie ou d'autres. Donc finalement, pas de regret.
Bah, peut-être qu'un jour je finirai dans une maison de retraite et là j'aurai des amis magnifiques.
Comme dans ce film là que j'ai vu, Les Beaux Jours de Marion Vernoux, c'est ça ?
Oui.
Très beau film dans lequel vous jouez une
jeune sexagénaire. C'est la famille me met dans une maison de retraite et là...
Et vous avez une histoire d'amour avec Laurent Lafitte,
oui.
qui a 30 ans de moins.
Oui, mais qui est un sexe addict, donc c'est pas une histoire d'amour.
En tout cas, c'est une histoire de complicité,
oui.
d'amitié presque,
oui.
d'amitié
oui.
sexuelle.
Mais que la vraie histoire d'amour, finalement, c'est avec mon mari.
Et dans ce film ?
Ah, je trouve.
Oui, oui.
Vous ne trouvez pas qu'avec Patrick Chenet, on sent que c'était ça.
Si, si, tout à fait.
Que c'était toute cette révolution avec de se crêper le chignon, etc., pour arriver à ça.
Si, si, on a aussi l'impression que c'est finalement pas un adultère.
Non.
Au fond, c'est juste l'occasion de mesurer qu'on est encore vivant et de mesurer l'essentiel.
Moi, ça me plaît beaucoup que vous disiez ça. Parce que souvent, on pense toujours que dans une histoire d'amour, la chose la plus importante, c'est la fidélité. Mais pas du tout.
Bah, la fidélité à quoi ? À soi ou aux autres ?
À l'autre.
Vous voulez dire que la fidélité à soi est plus importante ?
Oui.
La fidélité à son désir, peut-être ?
Oui.
Y a un beau séminaire de Lacan, l'éthique de la psychanalyse, je ne sais pas pourquoi on parle beaucoup de Lacan aujourd'hui, dans lequel il dit, voilà, la seule chose dont l'homme puisse vraiment avoir à se sentir coupable, c'est pour autant qu'il a cédé sur son désir. Autrement dit, s'il est infidèle à lui-même, il y aura de toute façon beaucoup d'autres trahisons, d'autres infidélités.
Ah, je trouve ça très juste.
Et donc, si je vous renvoie la question de Lacan, cette fidélité à vous-même, elle serait où ?
Elle a commencé très jeune, avec cette capacité de dire non.
Ça m'amène peut-être à une dernière question que j'aime bien poser à mes invités. Je suis en général assez surpris des réponses. Elle a l'air simple, mais je crois que vous allez entendre toutes ces résonances. Finalement, vous êtes l'enfant de quoi ?
De l'amour.
L'enfant de l'amour, par exemple, de vos parents, des hommes que vous avez aimés, de l'amour... des livres ou de l'amour tout court ?
Tout ça.
Eh bien, merci beaucoup, c'est une belle réponse. Je vais essayer, pour vous remercier de vous être rendu sous le soleil de Platon, de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui a été la vôtre et puis que vous avez essayé de nous faire partager pendant cette émission. On a senti beaucoup d'engagement, mais en même temps du désengagement finalement, puisque la mystique, le fait de n'être plus là, d'être dans la présence, c'est aussi un désengagement. On a senti quelque chose... comme une allergie à tous les troupeaux, à tous les groupes, qui permet à une singularité comme ça, une curiosité, une éloquence. On n'a pas eu le temps de parler de cette voix. J'aurais bien aimé vous demander si votre voix vous ressemble toujours et si votre voix parfois ne vous trahit pas. J'aurais envie de dire aussi une philosophie évidemment de la singularité. Quelque chose quand même d'un peu nietzschéen, hein. Quand Nietzsche qui disait, voilà, c'est normal, la société a besoin de normes, c'est normal, mais il y a toujours un malaise comme ça parce que la singularité a besoin, elle, de liberté. Merci beaucoup, on a senti cette liberté vivre, on l'a senti chanter aussi dans la belle chanson. Merci Fanny Ardant de nous avoir rejoints sous le soleil de Platon. Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, avec à la technique Yves Le Horse, à la programmation musicale Thierry Dupin, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à vous, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h précisément sous le soleil de Platon.